Bonjour à tous. Vous allez bien? On est encouragé ce matin par différentes paroles qui ont été données, vraiment des choses qui vont profondre nos cœurs. Et ce matin, je vais vous parler de quelque chose qui a à voir avec ça aussi. La paix qui doit s'installer en nous quand on appartient à Jésus. Et la paix qu'on peut chercher aussi quand on vient à Jésus, mais qu'on peut continuer de chercher. Parce qu'en tout cas, c'est ce qu'il a prévu pour nous, c'est que nous soyons en paix. Donc ça s'appelle la couverture de Dieu. Ah, c'est à moi de zapper. Voilà, c'est parti. Donc cette image vous présente un homme sous un parapluie. Enfin, je pense que c'est un homme puisqu'il est de dos. Mais et sous une voûte qui a l'air vraiment dense et épaisse. Et ce que Dieu a prévu pour nous, c'est vraiment une protection dans toutes les dimensions de notre vie. Et même sans le savoir, on cherche cette protection. Et c'est souvent ce qui nous conduit à Dieu, d'ailleurs. Et on a beaucoup de chants qu'on prend les dimanches les uns après les autres. Beaucoup de paroles dans la Bible qui nous parlent de ça, d'un refuge, un abri. Tellement, tellement de choses que le Seigneur ne nous a pas oubliés dans ce besoin d'être dans un surabri. Un lieu sûr, le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Vous connaissez ? À l'ombre de tes ailes et la guérison. Voilà, il y en a plein d'autres. Et le Seigneur a prévu ce parapluie divin. C'est comme un bouclier invisible pour tous les domaines de notre vie. Et cette couverture n'est pas seulement pour le temps froid comme nous avons eu la semaine dernière, mais il peut être pour la froideur qui peut s'installer dans nos vies. En tout cas, c'est vraiment un lieu sûr auprès de Dieu. Et donc, j'ai commencé par le psaume 91. Que j'aime particulièrement, et parce qu'il m'a souvent parlé, ce psaume-là, au début de ma vie chrétienne. Et on peut dire un tas de choses concernant ce besoin de refuge, et on entend des choses comme « mon refuge, c'est ma maison, c'est mon toit ». Mais quelquefois, c'est plus que ça. Je me réfugie dans mon lit, dans le sommeil, et d'autres, ça va être « je me réfugie dans le travail ». En fait, toutes ces attitudes démontrent qu'il y a un besoin. Mais quelquefois, nous, ce que nous prenons, c'est une fuite. Et Dieu nous a créés avec ce besoin vraiment vital d'être protégés, d'être abrités. Et bien sûr, toutes ces choses sont éphémères, et en plus de nous couper de la vie sociale, de la vie familiale, parce qu'on fuit en fait quelque chose que Dieu a préparé pour nous. Et le psaume 91, il est vraiment merveilleux. C'est du miel sur nos vies. On va le lire ensemble. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Si 1 000 tombent à ton côté, tombent à côté de toi, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu piétineras le lionceau ou le dragon. Puisqu'il est attaché à moi, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Est-ce que ça ne fait pas du bien sur votre cœur, ça? Et nous avons, je ne vais pas vous lire tous les psaumes, hein, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Aussi le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Et c'est vrai que nous trouvons dans les psaumes quantité d'encouragement à nous placer sous la main de Dieu. Et on est souvent marqué par, dans les discussions avec des chrétiens ou non-chrétiens, sur le réconfort qu'apportent les psaumes. Donc avec ces deux psaumes et beaucoup plus, on est comblé. Moi, mon cœur est touché quand je lis ces psaumes-là. C'est vrai qu'au début de ma vie chrétienne, ils m'ont porté. Je vous ai dit peut-être que le seul chant que je connaissais au début, c'était « Mon seul abri, c'est toi ». Et je pouvais le chanter toute la journée. Quand je travaillais, je pouvais le chanter toute la journée. Et donc, bien sûr, Dieu avait prévu quelque chose de bon pour nous. Et nous nous sommes écartés. L'homme s'est écarté de la protection de Dieu. Et donc, il y a un vrai combat spirituel. Certains le connaissent, en sont très conscients, mais d'autres n'en sont pas conscients. Mais de toute façon, nous le vivons tous. Et dès la jeunesse, Adam et Ève ont éprouvé la nudité. Donc le premier péché, bien sûr, est la première mise en évidence du besoin d'une couverture spirituelle. Genèse 3, donc de versets 7 à 11. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Quelle fuite! Quelle fuite! Cependant, l'Éternel Dieu, alors c'est toujours ça, le Seigneur, lui, n'est jamais découragé. Nous, on peut fuir, le Seigneur va toujours se manifester. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Le Seigneur savait très bien où ils étaient. « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» Donc bien sûr, vous connaissez cette histoire. Et cette exposition au péché. Il y a la couverture de Dieu et l'exposition au péché. Donc ils en font la première expérience. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait au verset 21 ? L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de pauvres dont il les revêtit. C'est sans doute le premier sacrifice d'animaux qu'on voit dans la Bible, le premier sacrifice. Et derrière, on voit le sacrifice de Jésus. Et dans cette couverture de Dieu, derrière, il y a toujours la couverture de Jésus. L'œuvre de Jésus à la croix qui nous ramène cette couverture sur nous. Là où le péché nous a touchés, nous a abusés, nous a submergés. Il y a Jésus-Christ. À tous les moments, c'est possible. Hop là. Donc c'est assez imagé aujourd'hui. Voilà. Parce que quelquefois, on a besoin d'images aussi pour nous aider à comprendre. L'homme avant la chute avait à la fois l'autorité et la puissance reçues par Dieu. Dieu avait donné vraiment cette autorité, cette puissance, et on le voit dans Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui rampe sur la terre. Et il y en a un qui, lui, avait perdu son autorité. Et dans sa ruse, dans sa manipulation de la parole de Dieu, a abusé Ève et Adam. Dieu a-t-il vraiment dit ? Parce que Satan voulait récupérer cette autorité qu'il avait perdue. Voilà, c'est bon. Donc bien sûr, en ne se conformant pas à ce que Dieu avait demandé à Adam, Satan a repris l'autorité. Il restait à l'homme la puissance, mais il ne pouvait pas en faire grand-chose. Et on lit, enfin, il y a différents endroits sur lesquels on sait que l'ennemi a repris cette autorité sur la terre. Luc 4, 5 et 6, le diable l'emmena plus haut, donc c'est lors de la tentation vis-à-vis de Jésus, le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir, toute cette autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Et donc, bien sûr, Jésus n'a pas fonctionné dans ce mensonge. Lui connaissait toute la parole et a pu répondre. Mais on sait que l'ennemi, le prince de ce monde, continue d'avoir autorité sur les hommes et les femmes. Et même nous, chrétiens, il peut, si on lui laisse la possibilité, si cette porte a été ouverte, il peut avoir une autorité sur nos vies. Et l'autorité et la puissance sont vraiment deux choses différentes. L'autorité signifie le droit de faire quelque chose, le droit de faire quelque chose. Comme l'autorité est donnée à un général d'armée, au chef d'une armée, il a cette autorité. Et cette autorité, il l'a sur l'armée. Donc la puissance, elle représente la force de faire quelque chose. La force de faire quelque chose, en l'occurrence, ce sont les hommes et le matériel qui composent cette armée. Donc d'un côté, il y a l'autorité représentée par le général commandant en chef de l'armée. Et la puissance, c'est cette armée, donc avec les hommes qui sont équipés de différents matériels. Mais la puissance, sans une saine autorité, peut être dévastatrice. Nous avons bien sûr l'actualité avec les diverses actions terroristes, où là, il y a une puissance, oui, qui est à l'œuvre, mais sous une mauvaise autorité. Et donc, quand vous prenez l'avion, peut-être que vous voyez les pilotes. Géraldine, tu as pris l'avion dernièrement. Comment ils étaient, les pilotes ? Donc, sur ma droite à moi, et sur votre gauche à vous, on a donc le pilote et le copilote qui ont l'air d'avoir vraiment reçu une autorité parce qu'ils ont l'habit. Ils ont l'uniforme, et tous les deux. Et bon, moi, ça me sécurise. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui, manifestement, pilote, il ressemble à Pierre, d'ailleurs. Toi aussi, tu as pris l'avion. C'était toi, peut-être. Et Donc, attention à ce que vous faites, parce que je suis les choses. Hein. Et donc, cet homme, bon, manifestement, a un diplôme de pilote aussi. Mais bon, si vous voyez cet homme-là dans le cockpit, à la place des deux autres, bon, vous lui dites, bon, viens donc t'asseoir avec nous. Ou alors vous descendez de l'avion parce que vous avez peur. Et donc, ce que je voulais vous amener à comprendre, c'est vraiment cette différence entre l'autorité qui est confiée à quelqu'un avec la puissance. Et ces deux hommes, donc ces deux pilote et copilote, bon, vous êtes d'accord, on est en paix parce qu'on a des hommes compétents et qui ont reçu l'autorité pour piloter un avion. Si c'est notre ami récemment à Pierre, il a plein d'autres qualités, c'est certain. Mais pour conduire un Boeing ou je ne sais quoi, enfin en tout cas un avion qui peut nous faire traverser l'Atlantique ou le Pacifique, je préfère que ce soit deux hommes qualifiés et ont reçu l'autorité. Et donc, cette différence sur l'autorité et la puissance, dans le royaume de Dieu, il était établi que Dieu nous donnait une saine autorité pour utiliser la puissance qu'il nous donnait. Et donc, à la nouvelle naissance, en Jésus-Christ, nous recevons son autorité, sa puissance. Et bien sûr, nous sommes ravis comme ce petit bonhomme qui saute de tout son cœur. Et dans Actes 26, donc du verset 17 à 18, c'est au moment où le Seigneur parle à Paul et lui dit « Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens vers qui je t'envoie. » pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Et la version Osterwald, qui je trouvais un peu plus parlante, pour leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et de l'empire de Satan à Dieu, afin que par la foi en moi, ils reçoivent la rémission des péchés et qu'ils aient part à l'héritage des saints. Et donc cette question d'autorité, elle est fondamentale pour nous. Parce qu'on va dire, on est chrétien, on se met sous l'autorité de Jésus. Ça c'est clair, je fais le sondage, je suis quasiment sûr que 100% vont me dire, je me mets sous l'autorité de Jésus. Mais seulement, pour chacun d'entre nous, nous savons que le péché nous a atteints à un moment donné et nous n'en sommes pas débarrassés complètement. Et donc, il y a des portes qui restent ouvertes et des soumissions à une autorité qui n'est pas celle de Dieu. Est-ce que vous avez reconnu ça dans votre vie? Des moments où vous vous dites, mais ça ne va pas là. Qu'est-ce que je fais? Ça ne vous est pas arrivé ça? Je ne suis pas tout seul quand même. Amen. Parce que ça, c'est vrai que ça m'est arrivé dernièrement. C'est vraiment bizarre. On a vraiment l'impression, je me dis, mais c'est quoi ce truc, quoi? Je n'ai même pas pensé à ce truc-là. Et puis, je me dis, mais c'est bizarre. Comment ça fait? Ça se fait que ça sort de ma bouche, quoi. Et donc, c'est un sujet sur lequel on pourrait parler une journée, hein, mais je n'ai pas une journée, et vous non plus. Enfin, si, peut-être. Et donc, par la grâce de Dieu, je vous en reparlerai à un autre moment. Et nous devons reconnaître qu'il y a des secteurs de notre vie qui ne sont pas sous l'autorité de Jésus. Donc, les caractéristiques des deux royaumes dans lesquels nous pouvons être influencé, le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Dans le royaume de Satan, il y a la peur. Dans le royaume de Dieu, il y a l'amour. Dans le royaume de Satan, il y a le rejet. Et le royaume de Dieu, il y a une pleine acceptation. Chez Satan, il y a l'isolement, la fuite. Je m'en vais. Et dans le royaume de Dieu, il y a la communion, il y a l'amitié. Chez Satan, il y a l'irréalité, le mensonge. Chez Dieu, il y a la vérité, la réalité des choses. On n'a pas besoin de se cacher. Chez Satan, il y a la mort, et chez Dieu, il y a la vie, et la vie en abondance. Chez Satan, il y a les ténèbres, des choses cachées. Et chez Dieu, il y a une lumière qui éclaire les profondeurs de nos vies. Les profondeurs de nos vies. Alléluia, quelle grâce! Et bien sûr, ce royaume de Satan est caractérisé par l'insécurité et la peur. Et le royaume de Dieu est caractérisé par une sécurité, une paix, et nous mène à la délivrance. Et donc, je vous disais, il faut avoir conscience de ce combat spirituel, des stratégies de l'ennemi depuis des générations. Et nous avons pu être confrontés, des générations avant nous aussi. Et là où, dans le domaine naturel, nos parents, eux aussi, voulaient nous apporter la sécurité. Ce qui est vraiment magnifique quand on regarde tout le règne animal, c'est comment une mère va protéger ses enfants, une mère va protéger ses petits. C'est extraordinaire. Et la conscience de ce combat spirituel, bien sûr, c'est de résister au diable, il fuira loin de vous. C'est d'être éclairé dans nos vies sur ce qui se passe réellement. C'est de se poser la question, pourquoi je réagis comme cela? Et ce qui nous confronte, c'est la parole de Dieu, la parole révélée, la parole vivante. C'est un cœur qui est décidé à être ouvert à ce que Dieu veut nous dire. Ce n'est pas un passage de la Bible qui serait vite lu, parce qu'on doit le faire. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas qu'on me dise lire la Bible en un an, des systèmes qui sont des moules dans lesquels on veut mettre les chrétiens. Le moule de Dieu, s'il y en a un, c'est sa protection, c'est son abri, qui tient compte de chacun. Ce que Dieu veut à travers notre lecture de la Bible, c'est une lecture vivante, c'est une lecture qui nous arrête et touche notre cœur. Si vous refermez la Bible et que rien ne vous a parlé, il faut la réouvrir. C'est comme si vous aviez mangé et que rien ne vous avait nourri. Non, mais franchement, c'est ça. C'est la parole de Dieu. Elle est vivante. Alors elle doit nous nourrir. Donc toute cette couverture de Dieu, c'est vrai qu'elle ne fonctionne que si nous recherchons l'autorité de Dieu. Si nous avons discerné aussi qu'à un moment donné, l'ennemi avait une place dans notre vie. Et donc j'en parlerai sûrement une autre fois, parce que ça aurait été trop long de tout comment traiter aujourd'hui. Parce que dans les couvertures de Dieu, c'est ces couvertures naturelles, je vous parlais de la famille, du couple, donc le mari et la femme, le rôle de chacun dans toute la structure sociale que Dieu a voulu pour nous, les structures d'église que Dieu a voulu pour nous, ne sont pas simplement des principes moraux. C'est quelque chose qui est vivant. Ce sont des principes de Dieu. Et Dieu a donné à cette terre des principes qui sont des principes physiques qui s'appliquent. Et tout le monde les comprend, que si on jette une pierre, elle va tomber, elle ne va pas s'envoler. Et les principes spirituels, quelquefois on les connaît mal, mais ils s'appliquent aussi. Donc, où j'en suis? Donc, quelle valeur a cette couverture pour nous? Et bien sûr, nous le plaçons sous l'autorité de celui à qui nous choisissons d'obéir. C'est un choix qui est quelquefois inconscient, mais que le Seigneur veut éclairer. Quand vous vous posez cette question en disant « Mais qu'est-ce qui sort de ma bouche, là ?» Sincèrement, là, mais c'est quoi, ça ? Le Seigneur vous répond ce qui se passe. Et c'est une grâce d'être... C'est vraiment une grâce d'appartenir au Seigneur et qu'il parle dans nos vies à ce point pour aller chercher ce qui s'est passé. Là, je vous parle de quelque chose qui est anodin, mais il y a des choses beaucoup plus lourdes, comme des boulets qu'on a du mal à traîner. Et on a tellement de mal à le traîner qu'on ne vit pas notre vie. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a des fuites par moments et on essaie de se mettre sous notre abri, au fond de notre lit ou ailleurs, mais en nous faisant des autoprotections qui ne sont pas les protections de Dieu. Oui, Dieu a voulu que nous soyons protégés. Il n'a pas voulu que nous soyons nus. Mais il veut nous mettre sous sa protection. Donc, reconnaître notre péché et aussi notre fragilité dans ce combat, notre besoin de couverture, absolument. Et le péché est le choix de désobéir à Dieu. C'est ça le péché. C'est le choix de désobéir à Dieu. Et dans ce cas-là, bien sûr, nous allons nous placer sous une autorité qui n'est pas celle que Dieu avait prévue. Donc au psaume 32, verset 7, le Seigneur nous dit « Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. » Amen. Tu me préserves de la détresse. Dans toutes nos détresses, le Seigneur est là. Lui ne change pas, c'est ce que Robert a lu ce matin. Il n'y a pas une ombre de variation. Sa fidélité s'étend jusqu'aux cieux. Je n'ai pas l'appareil pour mesurer la fidélité de Dieu. Elle est immense. Et il nous entoure de champs de délivrance. Et la couverture de Dieu sera toujours Jésus, le Fils de Dieu. Je vous ai dit dès les premiers versets de la Bible, dès ce premier sacrifice d'animaux, on voit le salut en Jésus-Christ qui va venir, le premier sacrifice, et le sacrifice définitif et permanent de Jésus pour chacun d'entre nous. Et Jésus est notre délivrance en toutes choses. Et tout passera avec Jésus. Et annoncer l'Évangile, c'est annoncer la libération des captifs, la libération de ceux qui se sentent pécheurs, de ceux qui se sentent blessés, de ceux qui se sentent accablés. Bien sûr, si nous ne reconnaissons pas ces choses-là, nous ne pouvons pas être sauvés. Et c'est le premier message qu'on entend. Si nous ne reconnaissons pas que nous sommes pécheurs, mais il ne se passe rien. Mais quand nous sommes à l'écoute de ce que notre conscience nous dit, notre conscience éveillée par le Saint-Esprit, là le Seigneur nous amène sur ce chemin de délivrance. Et donc dans ce psaume, ce verset, mais le psaume est merveilleux aussi, on ressent toute la paix qui est exprimée. Il y a un état de sécurité qui est sans faille. Quelquefois, quand je lis ces psaumes-là, il y a vraiment une voûte, littéralement, de paix qui peut m'envahir. Voilà ce que Jésus nous donne en le suivant à chaque instant. Quand sa volonté est une évidence pour nous. Quand sa volonté est une évidence pour vous. Est-ce que la volonté de Jésus est une évidence pour vous? dans la soumission à cette volonté de Dieu, dans son obéissance, bien sûr, le vieil homme se débat. L'orgueil ne veut pas toujours se plier, pas toujours se soumettre. Et Jésus a connu ce chemin pour nous. Il l'a connu. Il a dû se soumettre, il a dû choisir d'obéir jusqu'au bout. Et nous retrouvons ça dans Hébreux 10. Il dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui cependant sont offerts selon la loi. Puis il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit donc le premier culte pour en établir un second. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Jésus a obéi pour moi, il a obéi pour vous. Et il m'a rendu saint. Il m'a rendu saint, capable de recevoir la volonté de Dieu, capable d'aimer la volonté de Dieu, et capable de retrouver, de nous mettre sous cet abri sûr, sous cette couverture de Dieu. Et le but de la croix est de nous remettre en état de faire la volonté de Dieu. D'homme perdu, le but de la croix, c'est de nous remettre en capacité de reconnaître et d'obéir à la volonté de Dieu, de nous placer sous cette saine autorité qui est cette couverture que Dieu a prévue pour nous. Je vais m'arrêter là. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Et amen. Dans ces images relativement simples, mais qui sont d'une évidence, nous sommes toujours placés devant des situations qui nous surprennent. Et une situation qui nous surprend peut faire rejaillir quelque chose qui est au fond de nous. Et après, on se dit, mais c'était pas moi ça. Ben ouais, mais si, c'était toi. Et je pense que tous, on a ce genre d'ambiguïté qui peut être en nous. Et du reste, d'avoir été abusé par le péché, que ce soit nous-mêmes ou les générations d'avant ou d'autres qui ont abusé de nous, la liste est très très longue. Mais en tout cas, nous avons été marqués au point que nous sommes retirés de la couverture de Dieu. Et ce que Dieu veut pour nous, pour ses enfants, c'est être à l'abri de ses ailes, de reconnaître son autorité et que son autorité est bonne, que son autorité est parfaite. Si vous vous imaginez juste à côté de Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. On est tous en ce moment près du Seigneur. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Qu'est-ce qui peut nous arriver? Rien du tout. Le Seigneur connaît le début de notre vie, les origines, tout ce qui a pu se passer. Et son désir, c'est de nous amener à une libération totale. C'est un Dieu de délivrance. La couverture de Dieu, c'est une couverture qui nous amène dans la délivrance pleine et entière. Il soustrait l'influence, il enlève l'influence de la mauvaise autorité de l'ennemi sur nos vies et de celle de ceux qui nous ont abusés de différentes manières. Si nous confessons ces choses, si nous nous reconnaissons avoir été abusé. Le Seigneur est là pour nous, pour éclairer le chemin, éclairer l'origine, afin que les pardons puissent être accordés, si c'est le cas. En tout cas, demandez pardon au Seigneur d'avoir marché dans ses mensonges, dans ses tromperies, et nous remettre sous son aile. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur nous révèle encore tous ces endroits, ces zones d'ombre où nous avons marché. Et peut-être nous continuons encore, mais dans sa grâce, le Seigneur vient amener sa lumière sur nos vies. Seigneur, viens amener, oui, ta lumière sur chacune de nos vies. Oui, Seigneur, rien ne t'est caché pour chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, quand un malheureux crie, tu entends sa voix. Seigneur, je ne veux pas connaître, Seigneur, toutes les plaies, les abus, tout ce qui a pu toucher mes frères et sœurs, tout ce qui est un poids sur leur vie. Seigneur, tu es venu. Tu es venu, Seigneur, afin que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance, Seigneur. Seigneur, tu as prévu, Seigneur, que les uns et les autres, Seigneur, marchent dans cette lumière, marchent dans cette vérité, afin d'être délivrés, Seigneur. Je te prie, Seigneur Jésus, de te révéler au cœur, de te révéler, Seigneur, dans les vies, dans les profondeurs, Seigneur. Seigneur, nous voulons te plaire tous, nous voulons te plaire. Viens-nous en aide, Seigneur, et que ta gloire se répande au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, je veux voir des vies, Seigneur, qui se relèvent, des têtes qui se relèvent, des épaules qui se redressent, Seigneur. Un pas qui marche en sécurité, Seigneur. Seigneur, à qui d'autre irions-nous qu'à toi? À qui d'autre, Seigneur? Merci, Seigneur, de te lever et d'éclairer les vies, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.